que les conditions nous permettent ou non de nous rendre au séquoia géant. Il y a beaucoup à apprendre à leur sujet. Alors n'hésitez pas à écouter cette piste à votre convenance pendant le trajet. Si votre conducteur vous informe que la route est praticable, écoutez bien et retenez les informations pour la visite de l'après-midi. Nous nous trouvons ici dans la vallée à 1200 mètres d'altitude. Pour atteindre les séquoias, nous allons monter à environ 2000 mètres d'altitude et en route, vous verrez sur votre gauche de magnifiques panoramas. Nous traverserons plusieurs tunnels et arriverons au bosquet de séquoias géants, Tuolumne Grove, dans environ 30 minutes. Depuis qu'il a été décidé de protéger de façon systématique des zones naturelles, il a fallu renforcer également la lutte contre les incendies. Lutter contre les feux de forêt causés par l'homme est un début, mais ce n'est certainement pas suffisant. Sur votre gauche, vous verrez des traces d'incendies sur les arbres. Il s'agit d'un feu volontairement provoqué. Un débroussaillage est organisé et une zone est délimitée. Les rangers choisissent alors le moment et les conditions propices et le feu est déclenché. Ce procédé, répété à maintes reprises dans des zones à chaque fois différentes, permet de reproduire et simuler le cycle naturel des feux causés par la foudre. Il y a deux espèces de grands arbres en Californie qui sont particulièrement bien adaptés aux feux de forêt et qui en dépendent même en partie. On a longtemps pensé que ces arbres étaient classés dans le même genre, mais récemment on leur a attribué un nouveau nom scientifique et leur relation s'en est trouvée éloignée. Avez-vous eu l'occasion d'observer les séquoias près de la côte? Ce sont des séquoias à feuilles d'ifs. Beaucoup mesurent une centaine de mètres et dans un bosquet quelques heures au nord de San Francisco se trouve le plus grand arbre du monde atteignant 112 mètres de haut. Ils ont généralement le tronc droit et une forme régulière ressemblant à un arbre de Noël. Certains ont 2000 ans d'âge. Ils poussent uniquement dans une zone délimitée près de la côte pacifique de Big Sur au sud de Monterey jusqu'à la frontière avec l'Oregon. Leur secret de leur longévité réside dans l'acide tannique présent dans le bois et l'écorce de l'arbre qui les rend également résistants à la pourriture. Cette qualité en fait, malheureusement, un bois de construction idéal. 95% de ces arbres ont été abattus au cours des 150 dernières années. Il existe un bosquet à deux pas de San Francisco dans le Muir Woods National Monument, du nom du fameux naturaliste John Muir dont on a parlé ce matin. Un endroit de toute beauté et une expérience tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Cette visite fait partie de l'excursion dans la vallée des vins, le Wine Country Tour, dont je vous ai déjà parlé. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur l'excursion, dites-le-moi. Les arbres que nous allons découvrir aujourd'hui sont des séquoias géants. Ils ne poussent que sur le versant ouest de la chaîne montagneuse Sierra Nevada, entre 1500 et 2100 mètres d'altitude. Ils n'atteignent pas d'hauteur aussi impressionnante que les séquoias à feuilles d'ifs, mais deviennent bien plus gros, mesurant jusqu'à 13 mètres de diamètre. Ils poussent en hauteur pendant environ 800 ans, puis en largeur le restant de leurs jours. Tout comme leurs cousins de la côte, leur bois et leur écorce sont saturés d'acide tannique. Cette substance qui résiste au feu, mais aussi aux insectes et aux parasites, leur octroie une longévité ahurissante. Ils peuvent vivre plus de 3000 ans. Ces arbres sont également les plus massifs de la planète. Comme leur sol n'est pas très profond, leurs racines s'étendent parfois sur un rayon près de 50 mètres. Heureusement, le séquoia géant ne fournit pas un excellent bois de construction puisque celui-ci se déforme lorsqu'il se dessèche. Ils n'ont donc pas été abattus que par intermittence comme divertissement plutôt que pour le profit. Plutôt absurde, mais pas fatal. Nous traversons une région qui a été dévastée par un feu en 1990. Déclenché par deux banals coups de foudre, le feu a pris des proportions inhabituelles. Une quantité trop importante de matière inflammable au sol, un feu trop chaud, une propagation trop longue et 24 000 hectares sont partis en fumée. C'était un tournant dans l'histoire de la gestion forestière du parc et a modifié notre compréhension du rôle du feu dans l'écosystème d'une forêt. En luttant systématiquement contre tous les feux de forêt, nous avions nui aux arbres. La repousse des graines a été freinée et l'écosystème déréglé par l'accumulation anormale de débris naturels sur le sol. La politique de tolérance zéro posait deux problèmes majeurs. D'abord, on a découvert que les séquoias géants avaient besoin d'un minimum de feu pour se reproduire. Qui l'eût cru ? Ce sont uniquement des minuscules graines contenues dans les cônes qui permettent la reproduction. Et les mêmes cônes peuvent rester 20 ans sur l'arbre avant de tomber. La douce chaleur d'un petit feu grille légèrement les cônes sur l'arbre. Ils se dessèchent alors et s'ouvrent en deux. Les graines ainsi déversées sur le sol brûlé et trouvent les nutriments dont elles ont besoin et un environnement propice leur permettant de germer en toute tranquillité. Si le sol est trop encombré de feuilles et autres dépôts naturels, les graines auront de la difficulté à se frayer un chemin et à se déposer. Le deuxième problème découle de l'accumulation de dépôts, de débris et de petites formes de vie. Cet entassement a transformé un feu banal en tempête de feu gigantesque, abîmant les sous-bois et atteignant même les branches et des feuillages supérieurs, habituellement à l'abri d'un feu plus restreint. Si les branches hautes brûlent, l'arbre meurt. Aussi bien les séquoias géants que les séquoias à feuilles d'ifs résistent au feu tant que ceux-ci sont fréquents, rapides et assez bas pour que les flammes s'éteignent avant de gagner les hauteurs.